Merci Timothée. Merci aussi d'avoir fait chanter Reste avec nous, parce que ce chant, c'est le premier que j'ai appris en français lorsque, venant de notre Espagne du début de mon enfance, en 51, nous sommes arrivés en France, et le premier chant que j'ai appris, c'est Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. C'est un chant que mes parents aimaient beaucoup. Et c'est le premier qu'ils m'ont appris, donc j'étais content de le rechanter. Je lis avec vous, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, à partir du verset 10. C'est l'histoire de Jacob qui s'enfuit de son pays et de la colère de son frère Ésaü, et qui arrive dans un endroit où il va passer la nuit. Genèse 28, 10. Jacob avait quitté Beer-Sheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et il lui dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria : Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta : Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant : Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. Timothée l'a évoqué, nous sommes au tout début du mois de janvier, c'est-à-dire en plein dans la période des vœux. Les vœux de début d'année, et c'est des vœux que je voudrais vous parler ce matin. C'est pour cela aussi que j'ai lu, évidemment, l'histoire du vœu de Jacob à Bethel. Mais avant d'entrer dans ce texte, quelques mots d'introduction. Les vœux du début d'année, une tradition, une coutume, on aime ou on n'aime pas, on est libre, on pratique ou on ne pratique pas, on est libre. quelle est la valeur des vœux ? Comme pour beaucoup de choses du même type, formules et gestes de politesse, etc., en principe, ces paroles ont un sens, mais ce sens peut se dégrader, évidemment, en obligation rituelle et se perdre en simple formalisme. Pour ceux qui formulent des vœux, il s'agit au départ d'exprimer en faveur de quelqu'un de bons désirs et de bons sentiments. S'ils sont réels, si leur expression est sincère, qu'y a-t-il à redire ? N'est-ce pas bien d'avoir de bons sentiments ? N'est-ce pas un acte positif de les dire à une personne ? Les sceptiques diront « si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal ». De plus, sur ce terrain, la religion n'a pas bonne presse. On sait ce que signifie l'expression « faire des vœux pieux ». Il est vrai que ceux qui expriment des vœux n'ont pas, ou pas beaucoup, de pouvoir pour les réaliser. Par parenthèse, c'est pour cela que pour les chrétiens, vœux signifie prière. Des vœux. Certains pensent des mots qui, au mieux, n'ont pas beaucoup de valeur et, au pire, sont inutiles. C'est ce que pensent certains. Avez-vous remarqué comment on s'ingénie à notre époque à dévaloriser un petit bien parce qu'il n'apporte pas autant qu'un grand bien ? Je vous propose un petit exercice de candeur et de naïveté. Ainsi des bons sentiments. Là encore, on dit, ce ne sont que de bons sentiments. Que de bons sentiments. Il est bien évident que les bons sentiments, comme les bonnes intentions, ne suffisent pas. Sans l'action qui doit les concrétiser, ils ou elles restent inachevés, peuvent être inefficaces, et dans certains cas, peut-être même se révéler néfastes par les espoirs que cela suscite. Mais il vaut mieux avoir de bons sentiments que de mauvais, et de bonnes intentions que pas d'intentions du tout. N'êtes-vous pas d'accord avec cela ? Parce que les bons sentiments ne suffisent pas, faut-il les condamner ? Qu'est-ce qui suffit aujourd'hui ? Quand vous entendez des gens qui revendiquent, avez-vous entendu une seule fois après le résultat de la négociation dire « ça me suffit, le compte y est ». Non, ce que j'entends la plupart du temps, c'est « le compte n'y est pas ». Je ne sais pas, peut-être que vous écoutez d'autres radios que moi, mais moi, c'est ce que j'entends le plus souvent. Il faut bien sûr condamner l'inaction ou l'hypocrisie, mais pas les vrais bons sentiments. Sur ces mots déclarés par certains inutiles, je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a bien longtemps, puisque ça se situe à l'époque où nos enfants étaient encore à l'école primaire. Donc ça remonte à un bon nombre d'années, une bonne quarantaine d'années. Il s'agissait, dans un cercle de parents d'élèves, de discuter de l'utilité d'apprendre la politesse aux enfants. J'avais en face de moi une personne qui affirmait qu'apprendre aux enfants à dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît et merci, cela ne servait qu'à en faire des hypocrites, puisque, n'ayant pas envie de dire ces mots, ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. À quoi j'ai répondu : si vous apprenez la politesse aux enfants, je ne suis pas sûr que vous en ferez des hypocrites. Par contre, si vous ne leur apprenez pas la politesse, je suis sûr que vous en ferez des égoïstes. Revenons à nos vœux et à ce texte biblique. En fait, la Bible rapporte bon nombre de vœux, beaucoup de vœux, de toutes sortes de vœux qui expriment toutes sortes de sentiments, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et dans tous les genres, et de toutes les qualités. Dans ce sens, les vœux sont révélateurs du cœur humain. Au départ, dans la définition, les vœux et essentiellement des engagements à l'égard de Dieu, des promesses que l'on fait à Dieu. C'est le premier des sens que vous trouverez dans le dictionnaire. Soit pour remercier Dieu d'une prière exaucée, soit tout simplement, voilà, pour lui dire qu'on fait un vœu pour lui. Dans l'Ancien Testament, il s'agit donc surtout de vœux faits à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand on a fait un vœu, il faut l'accomplir. Mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire et de ne pas le réaliser. C'est le sage de l'Ecclésiaste qui nous le dit. Avec un piège à éviter, réfléchir après avoir fait un vœu. Il n'est que de se référer à ce vœu absolument insensé de Jephté qui avait fait un vœu à Dieu en lui promettant d'offrir, s'il lui donnait la victoire sur ses ennemis, en holocauste, la première personne qui viendrait à sa rencontre. Et la première personne qui est venue, c'était sa fille. Le Nouveau Testament rapporte aussi des vœux dans toutes les directions. Dans le domaine des sentiments très humains, je citerai simplement le vœu de la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Vous savez ce qu'elle est venue demander à Jésus ? On va faire une interrogation d'école du dimanche. Elle est venue dire à Jésus, « Je voudrais que tu exauces mon vœu. Et qu'est-ce que tu veux ? Ben, je voudrais que mes fils soient un à ta droite et un à ta gauche quand tu viendras dans ton règne. » Bien. Je ne commente pas la réponse de Jésus, qui a bien remis les choses dans la bonne perspective. Arrêtons-nous quelques instants sur ce vœu de Jacob à Bethel. Vous avez entendu toute cette série de conditions. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, son frère Ésaü avait juré sa perte. Alors l'Éternel sera mon Dieu, et la pierre sera un mémorial, comme nous en parlions dimanche dernier. Ça fait quand même beaucoup de conditions, hein, avant de reconnaître que Dieu est le Dieu de Jacob. Après tout ce que Dieu lui a dit d'ailleurs. Si alors. Et on peut avoir des sentiments mélangés devant une telle expression, un tel vœu. Est-ce un marchandage intéressé, donc indigne, avec Dieu ? Ou alors, est-ce autre chose ? Est-ce une mise à l'épreuve de Dieu ? Dieu vient de parler à Jacob, et Dieu vient de lui donner des promesses fortes et bien exprimées, bien clairement définies, et de lui renouveler les promesses qu'il avait faites à Abraham et à Isaac. Jacob, en fait, est en train de découvrir Dieu à partir de la révélation que Dieu vient de lui accorder, cette vision de l'escalier. Jacob, au début, ne s'adresse pas encore directement à Dieu. Il ne prie pas encore. Mais le pas que Jacob vient de faire avec ce vœu, c'est qu'il intègre Dieu dans sa vie. Il intègre Dieu dans sa vie. Vous savez comment il a vécu jusque-là ? Son nom signifie le supplanteur. Il s'est débrouillé pour avoir le droit d'aînesse et la bénédiction. Jacob vient d'intégrer Dieu dans sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas le point où il est parvenu, mais le pas qu'il vient de faire en intégrant Dieu dans sa vie. Nous sommes au début d'une année. Nous la décrivons comme quelque chose qui s'ouvre devant nous pour que nous marchions, pour que nous avancions. C'est important de faire des pas avec Dieu. Et Jacob repart. Il continue sa route. Tout en lui n'est pas changé, mais tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer en lui parce que Dieu est venu le rencontrer et que lui s'est ouvert à Dieu. C'est là que s'est noué, dans cette rencontre, le vrai départ dans la vie de Jacob. Parce que Dieu est venu le rencontrer et que lui s'est ouvert à cette rencontre. Voilà quelque chose d'essentiel. Dieu vient vers nous. Et il est essentiel que nous le reconnaissions et que nous nous ouvrions pleinement à ce qu'il veut faire en chacun de nous. Son chemin continue comme prévu vers Charan, mais sous une forme qui peut nous surprendre, il commence à compter sur Dieu pour son quotidien, pour sa nourriture et son vêtement. Et ce qui pouvait nous apparaître dans une première lecture comme presque un défi, un marchandage avec Dieu, en fait, on peut l'interpréter d'une autre manière et le considérer dans l'optique même du sermon sur la montagne, où Jésus invite les siens à compter sur Dieu pour tout, pour la nourriture, pour le vêtement. N'y a-t-il pas dans la prière sacerdotale « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». C'est là, c'est sur ce chemin-là que Jacob a commencé à marcher. Il compte sur Dieu pour sa protection le long de la route, pour la conclusion de son voyage, pour son aller et son retour. Et c'est ce qui va se produire. Et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et deux chapitres plus loin, Dieu lui rappellera qu'il a accompli les promesses qu'il avait faites à Jacob. Et Jacob reconnaîtra que Dieu l'a délivré et l'a conduit et l'a gardé tout au long de son chemin. Jacob s'engage avec Dieu, signe à sa manière l'alliance. Au cœur de ce vœu, il y a ce début de marche et d'attachement à Dieu. Marche avec Dieu et attachement à Dieu. Bethel, le lieu de la rencontre, marqué pour toujours sur la terre et dans le cœur de Jacob. Dieu accepte ce vœu et le rappelle à Jacob. Et même, lorsque Jacob, après le périple, reviendra et se retrouvera à Bethel, au même endroit, là où il a dressé la pierre du souvenir, vous savez comment il va nommer ce lieu, mais il l'a déjà nommé une fois. Il l'a nommé Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu, Bethel. Eh bien, il l'appellera El Bethel. Dieu de la maison de Dieu. Le redoublement du nom de Dieu. Il s'appuie sur le Dieu de la maison de Dieu, sur le Dieu de Bethel, sur El Bethel. Une belle entrée en matière, me semble-t-il, pour nous, dans cette année 2016, que d'apprendre de ce passage de l'Écriture les leçons que le Seigneur a enseignées à Jacob et qu'il veut nous enseigner ou nous renouveler. Pour que nous, qui cheminons avec Dieu, en faisant le point sur notre cheminement avec lui, en nous redisant par rapport à lui où allons-nous, que cherchons-nous, rappelons-nous que c'est sur la route de notre quotidien, sans ou avec circonstances particulières, que Dieu vient nous rejoindre et nous faire signe. Et que ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de nous ouvrir à la présence de Dieu dans nos vies chaque jour de notre vie. Sur le chemin de Jacob, la porte du ciel s'est ouverte. Au travers de ce chemin et de cette porte ouverte, Dieu est venu rejoindre Jacob. Il vient nous rejoindre, il nous envoie sa parole, il nous envoie son Fils pour nous accompagner tout au long de notre route. Je voudrais, dans une deuxième partie, regarder quelques instants avec vous un autre vœu. Celui que nous venons de voir se trouve au tout début de l'Écriture et celui que je voudrais maintenant regarder se trouve à la fin des écrits du Nouveau Testament. Il s'agit de la troisième épître de l'apôtre Jean. Je lis avec vous tout le livre, toute l'épître. Alors, vous savez que c'est un des textes les plus courts, un des livres les plus courts de l'Écriture et du Nouveau Testament. Troisième lettre de l'apôtre Jean. L'ancien à Gaïus, très aimé, que j'aime dans la lumière de la vérité. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. Quel vœu ! Je continue la lecture. J'ai en effet éprouvé une très grande joie, car des frères arrivés ici rendent témoignage à la vérité qui transparaît dans ta vie. Toi, tu marches dans la lumière de la vérité. Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants marchent dans la lumière de la vérité. Cher ami, tu agis selon ta foi dans les soins que tu prends pour les frères, et cela pour des étrangers. Ils ont rendu devant l'Église témoignage à ta charité. Tu agiras bien en pourvoyant à leur mission d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous donc, nous devons venir en aide à ces hommes afin de nous montrer coopérateurs de la vérité. J'ai écrit un mot à l'Église, mais Diotrephès, qui aime à tout régenter, ne nous reconnaît pas. Aussi, lorsque je viendrai, je dénoncerai ses procédés, lui qui se répand contre nous en paroles mauvaises, et non content de cela, il refuse lui-même de recevoir les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, ne prends pas exemple sur le mal, mais sur le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal ne voit pas Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde lui rend un bon témoignage. La vérité elle-même témoigne pour lui. Mais nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume, car j'espère te revoir prochainement et nous nous entretiendrons de vive voix. La paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue aussi les amis, chacun en particulier. Voilà des vœux tout à fait remarquables. Je ne sais pas si l'apôtre Jean a écrit sa lettre début janvier, mais on peut vraiment s'inspirer de ses propos pour tout ce que nous voulons exprimer de bien pour nos frères et pour nos amis. Et le grand, le vieil apôtre Jean, ne dédaigne pas d'exprimer des vœux pour son ami très cher Gaïus, et des vœux de santé et de prospérité. Comme nous. C'est ce que nous disons, me semble-t-il, le plus souvent. Ces vœux sont pour Gaïus, qui était un prénom, un nom extrêmement répandu à l'époque. Et plusieurs Gaïus sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Nous ne savons pas auquel exactement s'adresse l'apôtre Jean. Cher ami, dit-il, très aimé, bien aimé, quelle profondeur, quelle force, que l'affection que l'apôtre Jean exprime à l'égard de Gaïus. Et cet ami, il l'aime, dit-il, dans la vérité, ou dans la lumière de la vérité. Bien sûr, nous comprenons à la fois que tout ce qu'ils ont en commun dans la foi chrétienne, dans la révélation du Seigneur, est au premier plan de leur lien d'affection, de leur amitié. Il a une véritable affection chrétienne pour ce frère bien-aimé. C'est un ami chrétien, bien sûr. Mais je pense que cette expression a un sens encore plus large, dans la mesure où c'est un véritable ami auquel il s'adresse et auquel il écrit. C'est vrai que dans tout ce court texte, l'apôtre Jean exprime beaucoup de sentiments dans l'affection, dans l'amour et dans la vérité, dans la lumière. Et ce sont des mots qui ont beaucoup d'importance pour lui, parce qu'aussi bien dans ses autres lettres que dans l'évangile de Jean, les mots amour, vérité, lumière sont vraiment des mots clés dans sa pensée, dans tout ce qu'il enseigne et dans tout ce qu'il partage. La vérité, bien sûr, c'est d'abord celle que Dieu a révélée, c'est-à-dire sa parole, et qui est pour lui source, la source où s'alimente l'amour chrétien et le partage de l'essentiel. Marcher, c'est-à-dire être conséquent dans ses actes avec cette parole à laquelle il est profondément attaché. Il est vrai aussi que l'attachement de Jean pour Gaius plonge ses racines dans le sol commun de leur culture, de leurs origines communes, même pays, même langue, même goût, des idéaux et des activités communs. Tout cela lié ensemble. La vérité, la force, la profondeur de cette amitié, c'est tout cela ensemble. Car, à plus forte raison, bien sûr, lorsqu'il s'agit de la communauté de ceux que Dieu a aimés, éclairés, libérés et rassemblés. C'est vrai qu'avec la base de la foi chrétienne, toute amitié peut prendre une dimension et une profondeur exceptionnelles. Parce que nous sommes ensemble des pécheurs pardonnés, aimés de Dieu, au bénéfice de la grâce. Des biens les plus précieux sont notre partage en Jésus-Christ. Et nous vivons la communion de la famille de Dieu. Communion. Nous avons en commun beaucoup de choses, l'essentiel. Mais il faut aussi ajouter cette note. Cette amitié dans la vérité, elle exprime aussi le fait qu'elle englobe la personne tout entière, avec tout ce qu'elle est, avec ses plus et ses moins, nos plus et nos moins, nos qualités et nos défauts. C'est cela, l'amitié dans la vérité. C'est aussi cela, l'amitié dans la vérité. L'amitié qui englobe tous les aspects de la vie, la santé, la prospérité matérielle, oui, bien sûr. L'amitié qui est basée sur la connaissance vraie, la vraie acceptation de l'autre, tel qu'il est, comme il nous accepte, nous, tels que nous sommes, avec qualités et défauts, points forts et points faibles, différences, problèmes, désaccords, tout compris. Vérité des sentiments et des pensées, acceptation des erreurs, pardon si nécessaire. Gaius que j'aime dans la vérité, dit l'apôtre Jean. Et puis, ce sera ma dernière partie, ses vœux de santé et de prospérité à la fois physique, matérielle et spirituelle. La santé, dit-on, c'est le principal. Ça a beaucoup d'importance. C'est vrai. Et nous sommes reconnaissants à Dieu tous les jours de notre vie pour la mesure de santé qu'il nous a renouvelée jusqu'ici. C'est un bien précieux. On s'en rend compte lorsque la santé est affectée par la maladie ou l'accident. Soyons donc reconnaissants pour la mesure de santé dont nous disposons. Et si nous le pouvons, faisons le nécessaire pour la conserver ou la retrouver. Mais la santé n'est pas le seul bien. C'est un concept assez vaste, celui de la santé. Vaste et complexe. Santé physique, morale, spirituelle. Et les interactions entre tous ces éléments. Ce qui est remarquable dans le vœu de Jean, c'est la référence. Alors je relis. Je souhaite, voilà le vœu, que tu te portes bien à tous égards, et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme, qui, elle, se porte bien. L'émerveillement ici, c'est que l'apôtre Jean a l'air d'être plus sûr de la santé spirituelle de Gaius que de sa santé physique. D'habitude, c'est quand même plutôt l'inverse. Pour deux raisons. D'abord parce que Ce qu'on voit d'abord, c'est l'apparence. Toujours assez content quand les gens nous trouvent bien, parce qu'on a une bonne apparence. Ça peut correspondre, hein, souvent c'est le cas. Ça peut aussi parfois ne pas tout à fait correspondre. On peut avoir une belle apparence et avoir une santé déficiente. Mais l'autre raison, c'est que la santé de l'âme, alors là, qui connaît la santé de l'âme ? Pour les autres, on la connaît parfois même pas pour soi. Mais pour les autres, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Que ta santé soit physiquement aussi bonne que celle de ton âme qui, elle, se porte bien. Remarquable. Je suis admiratif de ce que l'apôtre Jean exprime là. Mais il nous a donné quand même quelques repères pour que nous puissions savoir comment l'apôtre Jean sait que l'âme de Gaïus se porte bien. Il a des témoignages, des actions que Gaïus développe dans sa vie. Et ces témoignages sont nombreux et précis. Et finalement, comment, pour résumer, l'apôtre Jean sait que l'âme de Gaïus se porte bien ? Parce que par son attitude, par son comportement, par ses paroles, par ses actes, par sa manière d'être, toute une série d'expressions de l'être intérieur fait beaucoup de bien. C'est à la fois complexe et simple. Et c'est cela qui permet à l'apôtre Jean de formuler ce vœu en faveur de son ami Gaïus. On peut se tromper sur les apparences. On peut se tromper de bien des manières. Mais quand il s'agit de l'intérieur, comment savoir ? Le moral, finalement, n'est-il pas plus fragile, plus vulnérable, plus souvent déficient et plus difficile à maintenir en forme que le physique ? C'est possible. C'est possible. C'est pour cela que parfois nous pouvons être tentés à l'égard de quelqu'un qui nous est proche ou d'un ami de nous faire du souci pour son âme, et c'est légitime de se faire du souci pour l'âme de nos amis, de ceux qui nous sont proches. Mais avant de nous lancer dans des hypothèses sur l'état de leur âme, il y a quelque chose qui est beaucoup plus sûr à faire que de porter des jugements hasardeux, c'est de faire des prières. Si nous prions pour ceux pour lesquels nous nous faisons du souci, nous ne risquons pas de nous tromper. Par contre, si nous les reprenons parce que nous pensons que leur âme se porte mal, parce que nous avons vu quelque chose de leur comportement que nous ne comprenons pas, là, nous pouvons nous tromper. Mais si nous prions, nous ne risquons pas de nous tromper. Je souhaite, dit l'apôtre Jean à Gaïus, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. Jean l'a vu et il en rend témoignage. Les frères en rendent témoignage. La vérité elle-même rend témoignage à la vie, à la façon d'être, à la façon de faire de Gaïus. Il a pris soin des frères qui étaient en mission, il a fait, vous avez lu tout cela, ce n'est pas la peine que je le répète. Brièvement, en conclusion, il y a aussi le contre-exemple, ce fameux Diotrephe, qui est le parfait contre-exemple de Gaïus. Vous avez vu ? L'orgueil en face de l'humilité, le pouvoir, l'esprit de pouvoir, le désir de pouvoir en face de l'esprit de service, le rejet des autres pour Diotrephe, alors que c'est l'accueil pour Gaïus. La possession pour Diotrephe, le partage pour Gaïus, l'exclusion pour Diotrephe, la communion pour Gaius. Et ce qui me console, c'est que pour un Démétrius, il y a Gaius et il y a Diotrephe. Pour un mauvais, il y en a deux bons. Alléluia. L'autre exemple, le bon exemple cette fois, c'est Démétrius. La vérité elle-même lui rend témoignage. Comment ? Comme pour Gaius. Par la diffusion de la parole de Dieu, que le témoignage de ce chrétien facilite et développe, et par la qualité de sa vie, qui prouve la vérité des principes de l'Évangile. Nous avons, par parenthèse ici, un moyen d'avoir une âme en bonne santé. C'est de pratiquer le bien sous toutes ses formes, les bonnes œuvres que nous sommes appelés à pratiquer, en suivant le chemin que le Seigneur nous a indiqué, dans lequel il nous a engagés. Mettre en œuvre notre salut, c'est aussi cela, faire le bien. Je conclus en citant Juvénal. Mens sana in corpore sano. Alors, je ne garantis pas la prononciation du latin. Enfin, tout le monde a compris. Un esprit saint dans un corps saint. Et Georges Bernard Shaw a dit, c'est une maxime absurde. Le corps est le produit de l'esprit saint. S-A-I-N. Hein. Nous resterons sur la ligne de ce que nous avons lu ensemble dans la parole de Dieu. Et nous garderons dans le cœur les vœux de Jean pour Gaius, la qualité de l'amitié qui les unit, la valeur des richesses communes dans le Christ, la qualité de la vie de Gaius, les œuvres de la foi agissantes par l'amour, des vœux de santé et de prospérité comme l'âme qui se porte bien. Nous faisons notre ces vœux, nous les disons chacun à l'autre avec tout ce qu'ils impliquent. Que le Seigneur exauce nos vœux et qu'il fasse même au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen.